Pendant ce temps, les bourgeois de Londres, inquiets et partagés, leur évêque ne s'est-il pas déclaré contre la déposition, se sont réunis au Guildhall. Ils sont moins aisés à manœuvrer que les représentants des comtés. Vont-ils faire échec au Parlement ? Roger Mortimer, qui n'est rien en titre et tout en fait, court au Guildhall, remercie les Londoniens de leur loyale attitude et leur garantit le maintien des libertés coutumières de la cité. Au nom de qui ? Au nom de quoi donne-t-il cette garantie ? Au nom d'un adolescent qui n'est même pas roi encore, qui vient à peine d'être désigné par acclamation. Le prestige de Mortimer, l'autorité de sa personne, opère sur les bourgeois londoniens. On l'appelle déjà le Lord Protecteur. De qui est-il protecteur ? Du prince ? De la reine ? Du royaume ? Il est le Lord Protecteur, voilà tout, l'homme promu par l'histoire, et entre les mains duquel chacun se démet de sa part de pouvoir et de jugement. Et soudain, l'inattendu survient. Le jeune prince, qu'on croyait déjà roi, le pâle jeune homme aux longs cils qui a suivi en silence tous ces événements et ne semblait songer qu'aux yeux bleus de Madame Philippa de Hainaut, Édouard d'Aquitaine déclara sa mère au Lord Protecteur, à Monseigneur Orleton, aux Lords Évêques, à tous ceux qui l'entourent, qu'il ne scindra pas la couronne sans le consentement de son père, et sans que celui-ci ait officiellement proclamé qu'il s'en défaisait. La stupeur gèle les visages. Les mains tombent au bout des bras. Pourquoi ? Tant d'efforts remis en cause. Quel soupçon se tourne vers la reine ? Ne serait-ce pas elle qui aurait agi secrètement sur son fils, par un de ces imprévisibles retours d'affection comme il en vient aux femmes ? Y a-t-il eu brouille entre elle et le Lord Protecteur cette nuit, où chacun devait prendre le conseil de sa conscience ? Mais non. C'est ce garçon de 15 ans, tout seul, qui a réfléchi sur l'importance de la légitimité du pouvoir. Il ne veut pas faire figure d'usurpateur, ni détenir son sceptre de la volonté d'une assemblée qui pourrait le lui retirer aussi bien qu'elle le lui a donné. Il exige le consentement de son prédécesseur. Non point qu'il nourrisse des sentiments fort tendres envers son père, il le juge, mais il juge chacun. Depuis des années, trop de choses mauvaises se sont passées devant lui et l'ont forcé à juger. Il sait que le crime n'est pas entièrement d'un côté et l'innocence de l'autre. Certes, son père a fait souffrir sa mère, l'a déshonorée et dépouillée, mais cette mère, avec Lord Mortimer, quel exemple donne-t-elle à présent ? Si un jour, pour quelque faute qu'il lui arriverait de commettre, Madame Philippa se mettait à agir de même, et ses barons, ses évêques, tous si acharnés aujourd'hui contre le roi Édouard, n'ont-ils pas exercé le gouvernement avec lui ? Norfolk, Kent, les jeunes oncles ont reçu, accepté des charges. Les évêques de Winchester et de Lincoln sont allés négocier au nom du roi Édouard. Les Despenser n'étaient pas en tout lieu, et même s'ils commandaient, ils n'ont pas exécuté eux-mêmes leurs propres ordres. Qui s'est risqué à refuser d'obéir ? Le cousin au Torscol, oui, celui-là a eu ce courage. Et Lord Mortimer aussi, qui a payé sa rébellion d'une longue prison. Mais pour deux que voilà, combien d'obséquieux courtisans maintenant pleins d'ardeur à se décharger sur leur maître des conséquences de leur servilité. Tout autre prince de cet âge serait aisément grisé de recevoir une couronne tendue par tant de mains. Lui relève ses longs cils, regarde fixement, rougit un peu de son audace et s'obstine dans sa décision. Alors Monseigneur Orleton appelle à lui les évêques de Winchester et de Lincoln, ainsi que le grand chambellan William Blount, ordonne de sortir du trésor de la tour la couronne et le sceptre, les fait mettre dans un coffre sur le bas d'une mule, et lui-même, emportant ses vêtements de cérémonie, reprend le chemin de Kenilworth, afin d'obtenir l'abdication du roi.